Hector Malot. Zit. Troisième partie. Chapitre 1. Gaston avait raisonné juste quand il avait dit à Zit que du jour où son père se trouverait en face d'un fait accompli, il désarmerait et viendrait lui-même demander à sa belle-fille de prendre dans sa maison la place à laquelle elle avait droit par son mariage. Telle avait été, en effet, la secrète disposition d'esprit du meunier de Sanssouci, un an après le mariage de son fils. De tous côtés autour de lui, on plaidait la cause de Gaston, sinon ouvertement, franchement, en tenant tête au chef de la famille, au moins timidement et d'une façon qui, pour être discrète, ne produisait pas moins d'effet. Madame Chamontin, d'abord, qui, désespérée de la rupture avec ce fils qu'elle aimait tant, se laissait entraîner par une faiblesse maternelle, en somme bien excusable, et ne pensait qu'à lui ouvrir les bras en le recevant en enfant prodigue. Puis le duc, qui, indifférent et sceptique par nature, ne se gênait pas pour laisser voir qu'il penchait vers l'indulgence. Si la faiblesse était excusable chez la mère, l'indulgence était en quelque sorte obligée chez le beau-frère, qui, dans la situation où le plaçait cette rupture, ne pouvait pas prendre parti contre Gaston sans paraître agir dans un intérêt personnel. Enfin, les intimes, les amis, tous ceux qui, à un titre quelconque, pouvaient parler librement et qui, par sympathie pour Gaston ou simplement par esprit de justice, prêchaient le pardon. Quand la sévérité pouvait empêcher le mariage, elle s'expliquait. Mais maintenant, ce qui est fait, est fait. À tout péché, miséricorde. Et puis, il n'y a rien à dire contre cette petite femme. Elle est charmante. Elle a le plus grand talent. Sa conduite est exemplaire. Une comédienne est une femme comme une autre. Ils s'aiment. L'amour excuse tout. Ces mots, sans cesse répétés, avaient fini par peser sur lui d'un poids que leur répétition même faisait plus lourd. Il y avait un courant. Fallait-il se mettre en travers et le remonter? Ce n'était pas son habitude de remonter les courants. Ce qui est fait, et quand l'irréparable est accompli, le plus sage est d'en tirer parti au mieux de ses intérêts. Si cette ligne lui avait réussi en politique et en affaires, n'était-elle pas bonne à suivre aussi en famille? À tout péché, miséricorde. Après 11 mois de mariage, Zit était accouchée d'une fille, Ella, qu'elle avait voulu nourrir, et la naissance de cet enfant l'avait troublée encore plus profondément. Elle ne s'en tiendrait pas à cette fille, elle aurait des fils aussi. Et cette possibilité, cette probabilité, ne pouvait pas le laisser indifférent. Si les enfants du duc de Paradan avaient du sang des Chamontins dans les veines, il n'en était pas moins vrai qu'ils ne porteraient jamais ce nom de Chamontin, le sien, pour la gloire duquel il avait tant travaillé, et ne le continueraient point. Tandis que ceux de Gaston ne seraient pas seulement Chamontin par le sang, ils le seraient aussi par le nom. Quand, plus tard, eux et leurs enfants joueraient un rôle dans la vie, ils rappelleraient tout de suite qu'ils étaient les descendants de Chamontin le député, Chamontin le grand industriel, Chamontin le financier fameux, Chamontin qui... C'était là, pour lui, une considération d'une importance capitale. Son nom continué, sa gloire perpétuée. Et elle devait être sérieusement pesée. Après tout, un sot mariage ne perd pas un homme. Le monde est indulgent aux folies de jeunesse. Comme il en était arrivé à ce point dans ses déductions, la loi sur le rétablissement du divorce revint devant la Chambre avec des chances sérieuses d'être adoptée, non seulement par la Chambre des députés, mais encore par le Sénat. Et alors, il s'arrêta. Le divorce rétabli, la situation changeait. Ce n'était plus en face de l'irréparable qu'il se trouvait, on pouvait manœuvrer. Gaston n'était plus lié pour la vie, ce n'était plus contre une femme qu'il avait à lutter, c'était contre une maîtresse dont l'influence devait être déjà plus ou moins ébranlée par les ennuis et la lassitude d'une vie de ménage que les privations de la pauvreté avaient dû rendre difficile. Il ne pouvait pas non plus être question de désarmer, au contraire. La situation redevenait, en quelque sorte, ce qu'elle avait été avant le mariage, et avec cette circonstance favorable que celle qu'il allait attaquer était après le mariage. De tous les députés qui suivirent alors la discussion de cette loi, aucun, à coup sûr, n'y apporta un intérêt plus passionné que Chamontin. Ce n'était point l'intérêt de la France qui se discutait, c'était le sien. Mais cette passion, il se garda bien de la laisser paraître, et jamais, avec personne, il ne lui échappa un mot qui le trahit. Même avec son gendre, opposé au divorce par principe traditionnel autant que par foi religieuse, comme il était naturel chez un paradant, il ne se livra point. « Mon fils aime cette fille, il l'aime passionnément. Les amoureux ne divorcent point. Et puis, divorce-t-on quand on a un enfant ?» Il importait, en effet, que tout le monde ignorât ses espérances et qu'aucune indiscrétion ne pût être commise, car alors cette coquine, elle était redevenue une coquine, se tiendrait sur ses gardes et il serait impossible de la prendre en faute. Tant que la loi avait été en discussion à la Chambre et au Sénat, il s'était enfermé dans cette prudente attitude. Le jour où elle avait été enfin votée, il était retourné à son agence de la rue du Helder, dont le directeur l'accueillit par un mot caractéristique. « Ah, monsieur Chamontin, je vous attendais !» Et c'était vrai, l'ancien magistrat qui connaissait ses clients était bien certain qu'il reverrait Chamontin un jour ou l'autre, car il en est de ses agences comme des salons de somnambules. Dur à monter une première fois, à ce point que plus d'un s'arrête avant de sonner, leur escalier est doux à continuer. Les uns comme les autres tiennent, semble-t-il, la clé de la porte mystérieuse, et l'on veut savoir. Interrompue, lorsqu'elle ne pouvait pas donner des renseignements d'une utilisation immédiate, la surveillance devait reprendre le jour où elle pouvait produire des résultats pratiques. Et cette heure avait sonné. Alors que Chamontin admettait qu'il y avait intérêt pour lui à faire sien les enfants de Zite, il n'était pas éloigné de croire que la conduite de la mère de ses enfants était exemplaire, comme on le disait, mais du moment que cet intérêt n'existait plus, cette conduite, semblait-il, devait être scandaleuse. Ne fallait-il pas qu'elle le fût pour obtenir le divorce ? C'était donc à chercher ces scandales que l'agence devait s'employer et une nouvelle surveillance fut organisée dans ce but, autour de Zite et chez elle. Autour d'elle, rien n'était plus facile, car le théâtre est une maison de verre, garnie du haut en bas d'appareils téléphoniques, où rien ne se passe sans être vu par 20 paires d'yeux, rien ne se dit sans être entendu par des oreilles aux aguets et répété par des langues bavardes. Il n'y avait qu'à faire parler ces langues et à les écouter. Chez elle, la chose était plus difficile, mais cependant sans être impossible, alors surtout qu'on ne marchandait pas et qu'on était prêt à payer les services. Pour tout domestique, Zite avait une seule bonne, une fille de la brie qu'elle avait fait venir à Paris. Naturellement, cette fille faisait tout dans la maison, le ménage comme la cuisine. Le soir, elle gardait Ella et restait auprès d'elle. Le dimanche, elle portait la petite au théâtre quand Zite jouait en matinée, de façon à ce que l'enfant têtât pendant les entr'actes, car si on avait pu assez facilement l'habituer à ne pas boire de 7 heures du soir à minuit, on ne pouvait pas la mettre à la diète dans la journée. Cette bonne que Zite avait connue autrefois dans ses tournées n'était pas une mauvaise fille, elle avait même certaines qualités, au nombre desquelles, par malheur, ne se trouvait pas le désintéressement. C'était pour gagner de l'argent qu'elle était venue à Paris. Plus tôt elle aurait la dot que son ambition s'était fixée, plus tôt elle retournerait dans son village où elle se marierait avec celui de ses amoureux que le magot tenterait. Lorsqu'on lui avait adroitement offert 100 francs par mois pour surveiller sa maîtresse, elle s'était laissée gagner d'autant plus facilement que cette surveillance d'une innocence parfaite ne pouvait causer de peine à personne. Il s'agissait d'un étranger très riche, un grand seigneur passionnément amoureux, qui voulait savoir comment vivait celle qu'il aimait, qui elle recevait, à qui elle écrivait, de façon à voir s'il pouvait ou ne pouvait point espérer. La surveillance qu'il désirait était aussi simple que facile, elle consistait à retenir les noms des personnes qui venaient et à écouter un peu, un tout petit peu, ce qui se disait dans ses visites. De plus, il voulait lire les lettres qu'elle écrivait, et pour cela, le moyen était facile aussi. On vidait son encrier et on remplaçait son encre par une autre préparée d'une certaine façon. quand elle remettait une lettre pour la porter à la poste, au lieu d'aller la jeter tout de suite dans la boîte, on entrait dans la cuisine, on exposait l'enveloppe à la vapeur de l'eau bouillante, la gomme se décollait, l'enveloppe s'ouvrait, et il n'y avait plus qu'à couvrir la lettre d'une feuille de papier sur laquelle l'écriture s'imprimait. Avec un pinceau, on étendait un peu de gomme sur le bord de l'enveloppe, et l'opération était finie sans que celui qui recevait la lettre s'aperçût de rien. Pouvait-on gagner 100 francs plus facilement et plus agréablement, sans peine et sans danger? Cependant, malgré les bavardages du théâtre habilement provoqués et soigneusement recueillis, malgré les conversations écoutées et apportées, malgré les lettres copiées, Chamontin n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Pas le plus petit scandale, au contraire, une existence d'une régularité parfaite dans laquelle il n'y avait à reprendre que cette exagération même de régularité. Il est vrai qu'aux yeux de Chamontin, elle était significative et pleine de révélations. Pourquoi cette femme de théâtre ne vivait-elle pas comme tant d'autres de ses camarades et n'avait-elle pas des amants? Quelle gueuse! Évidemment, ce n'était pas pour le plaisir de passer ses années de jeunesse dans une médiocrité besogneuse qu'elle se privait de ce que sa beauté et son succès auraient pu lui faire gagner. C'était par une canaillerie diabolique qu'elle faisait la sage, simplement pour ne pas donner des armes contre elle. Et son bourgeoisisme, à quoi tendait-il ? Est-ce que c'était par goût, par éducation, que cette fille élevée dans une baraque de saltimbanque était la plus bourgeoise des comédiennes ? Était-ce que c'était pour le plaisir qu'elle y trouvait, qu'elle comptait le linge de son blanchisseur et l'écrivait elle-même? Pour le plaisir qu'elle raccommodait les chaussettes de son mari en étudiant ses rôles? Pour le plaisir qu'elle confectionnait de sa propre main des petits plats que Gaston mangeait, Hermione ravaudeuse et Donia Sol cuisinière? Et son exagération de maternité n'était-ce pas aussi la rouerie misérable d'une femme qui ne respectait rien? N'était-il pas criminel à une mère d'allaiter son enfant tout en continuant son métier? Mais elle prenait bien souci de la santé de sa fille, qui n'était entre ses bras qu'une poupée, pour jouer les jeunes mères. Ne l'avait-on pas vue à l'heure des entr'actes dans le corridor, qui, de la salle, conduit à la scène et au foyer des artistes, alors que tout le monde passe par là, tenir sa fille devant les armoires où sont rangés les accessoires, comme si elle voulait l'amuser en lui montrant tous les cartonnages, toute la ferblanterie, depuis les épées des curiaces jusqu'au thé de la marquise, qui sont entassés là comme sur les rayons d'une boutique de jouets, mais n'ayant d'autre but que d'être remarquée par les abonnés et de faire dire qu'elle était la meilleure des mères. Tout cela n'était-il pas comédie toute pure, attitude voulue, pose et grimace? Ces rapports qu'on lui faisait à l'agence mettaient Chamontin hors de lui. Quelle gueuse! Bien entendu, l'ancien magistrat avait trop d'intérêt à partager cette opinion qui permettait la continuation de la surveillance pour ne pas abonder dans son sens. C'est justement parce que je crois comme vous que nous avons affaire à une gueuse qu'il ne faut pas désespérer. En ce moment, elle ne trompe pas son mari parce qu'elle l'aime, et quand l'amour les tient, les gueuses valent les honnêtes femmes pour la fidélité. Mais il n'est pas de l'essence de l'amour d'être éternel, n'est-ce pas? Tout au contraire. Le jour où cet amour s'éteindra, qu'arrivera-t-il? Cette médiocrité, dont elle ne souffre pas en ce moment, l'indignera. D'autre part, les anciennes habitudes, les exemples, les influences du milieu, le tempérament parleront et nous serons là. Quand cela arrivera-t-il? Demain, peut-être. Ou plus tard. Il est évident que nous n'avons qu'à attendre. Et que n'arrive-t-il pas pendant qu'on attend? Quand ce ne serait que le gouvernement qui peut changer, que la monarchie remplace la République, le divorce sera supprimé. Une loi nous l'a rendu, une loi nous le reprendra. Vous conviendrez, monsieur le député, dit l'ancien magistrat, que la loi ainsi entendue est une plaisanterie triste. Aujourd'hui, le mariage est indissoluble, demain il ne l'est plus, après-demain il l'est de nouveau. Et la morale, et la famille, que deviennent-elles? La morale, c'est de mon fils que j'ai souci. Dépêchez-vous, redoublez la surveillance. Ne pensez-vous pas qu'il serait à propos de l'étendre au mari? Jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes occupés que de la femme. Mais le mari compte aussi. Qu'il trompe sa femme, et il vit dans un milieu où les tentations sont aussi nombreuses que les occasions sont faciles. Elle voudra sans doute se venger, on pourra la prévenir de ce qu'elle ne verrait peut-être pas d'elle-même, on pourra exciter sa jalousie, la pousser, enfin mettre la brouille et la guerre dans le ménage. Et cette guerre serait un bel atout dans notre jeu. Car ce n'est pas le beau-père, ce n'est pas la famille qui peut demander le divorce, c'est le mari seul, et il est bon que le mari soit préparé. On n'a pas de résistance à craindre de sa part, pas plus que de réconciliation au cours du procès. Voyez de votre côté, je verrai du mien.